La question du jour.
Vous l'avez entendu dans le journal de 7h, François Hollande a reconnu hier, je le cite, les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, mais aussi les massacres de ceux restés en Algérie. Un discours plutôt bien accueilli par certaines associations de harkis. Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Vous êtes historien, sociologue, vous êtes l'un des grands spécialistes français de l'histoire du Maghreb. Vous publiez dans quelques jours une histoire dessinée de la guerre d'Algérie. Qu'avez-vous pensé de ce discours de François Hollande ?
C'est un discours important puisque pour la première fois, l'État français, par l'intermédiaire du président de la République en exercice, reconnaît l'abandon des harkis et bien entendu ce qui s'est passé ensuite, la tragédie des harkis, c'est-à-dire les massacres. Et donc par conséquent, c'est un seuil qui a été franchi aujourd'hui, enfin hier, dans ce discours qui est très important.
Nicolas Sarkozy avait déjà esquissé en 2012 un pardon pour la République vis-à-vis des harkis.
Oui, alors Nicolas Sarkozy, effectivement, en avril 2012, lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, donc dans un cadre qui n'était pas officiel, avait effectivement prononcé un discours, lui aussi, extrêmement important. Mais là, il s'agit du président de la République en exercice, et non pas simplement dans un cadre, disons, associatif. Il s'agit de la reconnaissance par l'État de cet abandon et de ce qui s'est passé par la suite.
Alors, évidemment, les commentateurs se sont dit que les perspectives électorales, la période, incitait peut-être François Hollande et les autres candidats potentiels à l'élection présidentielle à reconnaître la tragédie des harkis, lesquels pèsent électoralement, Benjamin Stora.
Oui, il y a bien sûr toujours la question électorale lorsqu'il est question de la guerre d'Algérie au sens large. N'oublions pas que la guerre d'Algérie, concerne toujours des millions de personnes. Par exemple, les Européens d'Algérie, ceux qu'on appelle les Pieds Noirs, qui constituent eux aussi une très forte clientèle électorale. Il y a aussi les appelés. 1,5 million de soldats ont été en Algérie entre 1955 et 1962. C'est aussi, bien sûr, ce qu'on appelle, entre guillemets, une clientèle électorale. Et puis, il y a les harkis, leurs familles, les descendants, c'est aussi bien sûr des clientèles électorales. Mais par-delà les calculs électoraux, il y a toujours, cette question très importante de la reconnaissance par la France de ce qui s'est réellement passé pendant cette séquence tragique de la guerre d'Algérie. Et donc, quels que soient les calculs, de toute façon, les actes, les discours resteront. C'est cela qui, à mon avis, est très important pour la suite, parce que, comme le dit d'ailleurs François Hollande dans son discours, eh bien, il faut savoir aussi affronter ce passé pour pouvoir avancer et affronter les défis de l'avenir.
Le fait que ce soit un président de gauche qui évoque cette manière dont les harkis ont été traités, et plus précisément maltraités par la France, alors même que le discours en faveur des harkis était traditionnellement un discours soutenu par la droite, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bien, vous savez, lorsque les harkis ont été abandonnés, ce n'était pas un gouvernement de gauche qui était au pouvoir, c'était la droite. C'était effectivement le général de Gaulle et ses ministres qui ont décidé cette position, ce n'était pas la gauche. La gauche est arrivée au pouvoir que bien plus tard, en 1981. Donc effectivement, c'est la droite qui s'est, à mon sens, ralliée plutôt à une position traditionnelle de l'extrême droite, qui était celle de la défense des harkis, bien sûr. Donc il y a plutôt ce type de glissement-là qui s'est opéré. La gauche, bien sûr, ensuite, arrivée au pouvoir, notamment avec François Mitterrand, a par la suite, bien sûr, emboîté le pas sur la question des harkis et puis aussi des Européens d'Algérie, bien entendu.
L'histoire des harkis, elle ne débute pas avec la guerre d'Algérie, elle est antérieure. Il est possible donc de la raconter à partir du début du 19e siècle, Benjamin Stora ?
Il y a une vieille tradition effectivement française de l'utilisation des troupes supplétives dans l'armée française, en Algérie bien sûr. C'est une très très vieille tradition, on l'a vu bien sûr dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre d'Indochine, parce que il y a eu aussi un abandon des troupes supplétives dont on ne parle jamais, mais qui est très important pendant la guerre d'Indochine, la guerre française d'Indochine, perdue disons qu'en 1954. Donc c'est une vieille histoire bien sûr que celle des relations et des liens entre l'armée française et les forces supplétives locales.
Et là aussi, avec un besoin de reconnaissance de la part de la République pour les souffrances endurées par ces individus, qu'est-ce qui se passe du côté algérien maintenant ?
Ah, du côté algérien, par contre, là, on est dans une autre histoire, bien sûr, puisque pour les Algériens et pour l'histoire officielle algérienne, il y a toujours, bien sûr, cette notion qui colle, disons, à l'histoire des harkis, qui est celle de la collaboration avec la France, les autorités françaises, etc. Ça reste un grand tabou de l'histoire algérienne, un tabou qui se discute quand même par les historiens algériens. En particulier, la question de savoir pourquoi autant de paysans algériens avaient décidé de combattre aux côtés de l'armée française.
Et justement, sociologiquement, quelle est l'explication? Comment expliquer que ces individus aient rallié la France? Qu'est-ce qui les distinguait, en quelque sorte, du reste de la population, Benjamin Stora?
Oh, mais c'est une population d'abord paysanne, hein, qui prend les armes essentiellement pour défendre son village, pour défendre sa terre, et qui, dans bien des moments, certains des membres de ces familles paysannes, certains avaient rejoint les maquis de la LN, d'autres membres de la même famille avaient pu combattre du côté de l'armée française et des harkis. Pour beaucoup, il s'agissait de stratégies de survie, hein, dans une situation de guerre très dure. Il y avait beaucoup de stratégies de survie, mais il y avait aussi, encore une fois, comme je le disais précédemment, une vieille tradition d'appartenance à l'armée française. C'était pas quelque chose de nouveau. Il y avait beaucoup d'Algériens musulmans, comme on les qualifiait à l'époque, qui avaient combattu, notamment pendant la guerre d'Indochine. Donc, pour certains d'entre eux, ils avaient le sentiment de poursuivre cette guerre. Mais malheureusement pour eux, c'était une guerre de décolonisation. Ils se sont retrouvés du mauvais côté de la barrière au moment du choix final de 1961-62.
Et est-ce que l'on sait ce qui faisait verser un individu d'un côté plutôt que de l'autre, plutôt du côté de la France ou plutôt du côté de la décolonisation, Benjamin Stora?
Ça c'est très difficile, il y a beaucoup d'études et des thèses qui ont été soutenues, parce qu'il y a effectivement des possibilités de bascule, à la fois soit du côté de la France, par tradition, par fidélité, par survie économique, soit du côté de la LN, par nécessité ou par conviction. Nationaliste, dans les mêmes familles. Ça, ce sont des choses qui sont très fréquentes. Et il faut rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la micro-histoire, c'est-à-dire l'histoire des campagnes, l'histoire des villages, l'histoire des familles, bien sûr, pour comprendre ce déchirement, cette tragédie qu'a été cette guerre et quelquefois l'opposition entre membres d'une même famille.
Merci beaucoup Benjamin Stora d'être revenu donc sur le sort des harkis. Je rappelle que vous publiez une histoire dessinée de la guerre d'Algérie avec des dessins de Sébastien Vassan. C'est aux éditions du Seuil et cette bande dessinée sera publiée le 2 octobre prochain.